Bonsoir à tous. Jacques Chirac a donc annoncé hier la poursuite et la relance du plan cancer. Il souhaite désormais combattre les addictions. Je pense au tabac, à l'alcool, mais aussi au cannabis, a notamment déclaré le président de la République. Le cannabis, dont une étude vient de démontrer qu'il était 7 fois plus nocif que le tabac, il s'agit d'une enquête menée par 60 millions de consommateurs. Nous avons intitulé ce soir cette émission « Cannabis, le troisième fléau », en allusion directe à la déclaration présidentielle. Voici en tout cas les invités qui ont accepté de participer à cette émission. William Loewenstein est médecin, spécialiste des addictions. Vous êtes directeur général de la clinique Montevideo à Boulogne-Billancourt, une clinique spécialisée dans le traitement des dépendances en tout genre. Vous êtes d'ailleurs l'auteur du livre intitulé « Ces dépendances qui nous gouvernent » chez Kalman Levy, mais aussi « Les drogues » chez Librio. Hélène vient-elle de publier son témoignage chez O Éditions. Il est intitulé « J'ai commencé par un joint ». Le livre sort mardi prochain, autrement dit le 2 mai. Ce document décrit d'abord une adolescence fragile qui va du 1er juin à l'héroïne et où la mort rôde en permanence. Marie-Jeanne Husset est directrice de la rédaction de 60 millions de consommateurs. Vous venez donc de publier une enquête sur le cannabis. Elle démontre que fumer 3 joints équivaut à un paquet de cigarettes. En ce qui concerne le goudron et le monoxyde de carbone, bref, le joint est donc plus dangereux que la cigarette. Enfin, Sylvie Angèle est psychiatre, directrice du centre Pluralis, un centre pluridisciplinaire spécialisé dans les psychothérapies. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont « À quelle famille ?» chez Robert Laffont. Vous venez de signer la postface du livre d'Hélène et vous avez été aussi sa thérapeute. William Loewenstein, quand le président de la République demande un plan global de lutte contre les addictions et qu'il cite le cannabis, est-ce que pour vous, le spécialiste, ça marque quand même une étape?
Ah, c'est historique, réellement historique. Ça veut dire que l'on va enfin considérer les addictions non plus simplement sous le jour de la morale, de la faiblesse ou de la répression, mais sous l'éclairage de la maladie. Que les dépendances sont d'authentiques maladies qui doivent donc être traitées comme telles. Ça veut dire qu'il faut vraiment développer la prise en charge, mais aussi les recherches, et notamment les recherches de médicaments efficaces. Je pense qu'on arrive à bien traiter quelque chose quand on a les médicaments pour les traiter, et ces médicaments permettent d'ailleurs des psychothérapies de soutien ou d'accompagnement.
Qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui, au lendemain d'une déclaration pareille, pour ce qui est de votre discipline, que vous êtes sur le papier mieux armé pour la prendre en charge?
Oui, je crois qu'on sort d'une longue période d'approximation où l'interprétation et le règne du pourquoi l'avaient grandement emporté sur le comment, comment faire, comment prendre en charge. Et le premier sentiment, oui, c'est quelque chose plus proche d'ailleurs de l'émotion, c'est la reconnaissance d'une approche qu'on a dû développer quand le sida et l'héroïnomanie balayaient tout sur son passage.
Et si je vous dis que moi j'ai compris cette déclaration comme importante parce qu'elle authentifie, on va dire, la dangerosité d'un produit souvent banalisé. Et surtout en plus, dans les générations qui sont les nôtres et celles qui ont suivi ensuite. Voilà.
Alors il y a cette dangerosité, je crois qu'en termes d'information, on en parlera tout ce soir, mais je crois qu'au-delà de la simple annonce de dangerosité, il y a aussi la façon, encore une fois, le comment s'en occuper, pas simplement alarmer, mais comment prévenir, comment soigner, comment faire de la réduction des risques, un plan national contre les addictions.
Vous avez dit, on n'en parle pas uniquement sous l'angle de la répression, ça semble évident, puisque le président de la République parle de tout ça dans un cadre qui est la relance du plan cancer, donc on pourrait dire la santé publique, c'est d'ailleurs ça qui est intéressant. En même temps, on comprend là aussi que la page de l'éventuelle mise en vente libre du cannabis est définitivement tournée, en tout cas en ce moment.
Je crois que ce qui a été appelé la dépénalisation du cannabis doit encore une fois aller dans le sens médical de la protection, et que l'on parle de décriminalisation, parce que ça, on sait que ça sert à rien d'enfermer des gens qui fument ou qui ont été dépendants au cannabis dans une prison. C'est médicalement et humainement indigne, mais que l'on puisse quand même maintenir l'interdit sur une substance qui a ce potentiel de toxicité, 100% encore une fois maltraiter et malmener les personnes qui en usent et parfois en deviennent dépendantes. Oui, je crois que c'est plutôt légitime si l'on veut être protecteur.
Est-ce que vous vous rendez compte, Hélène, justement, que nous parlons ce soir d'un produit qui a été très souvent présenté comme, on va dire, banal?
Je pense surtout que traiter ce problème sous l'angle d'une maladie qu'il faut avoir des spécialistes pour faire face et qu'on peut se reposer des fois sur des traitements médicamenteux, c'est aussi accepter que ça n'est pas qu'un problème de volonté et que quelqu'un qui consomme, ça n'est pas seulement un être pervers et vicieux, c'est quelqu'un qui n'arrive pas physiquement à s'en sortir.
C'est un patient, un malade.
On est malade de ça, mais il y a aussi absolument, il faut tenir compte de ça, c'est qu'une fois qu'on va avoir quitté la dépendance, on va se retrouver faire dans un vide, un no man's land autour de soi, et que c'est essentiel d'avoir aussi, je dirais, un travail qui se fait après la dépendance, c'est-à-dire un soutien psychologique, humain, familial, affectif.
Il n'y a pas un adolescent qui va commencer en allumant son premier joint, en se disant qu'il rentre peut-être dans un processus qui est dangereux et qui peut aboutir même jusqu'à la remise en cause de sa vie.
Non, je pense qu'on ne s'en rend pas compte quand on commence. En plus, peut-être même d'avoir un peu diabolisé le pétard, la fumette, le jour où on le rencontre, on se dit mais finalement, ce n'est pas si terrible que ça. Moi, j'avais commencé en buvant beaucoup d'alcool, alors que c'est une drogue tout à fait licite, que ça m'avait rendu vraiment excessivement malade. Et le jour où j'ai rencontré mon premier pétard, je me suis dit mais finalement, c'est pas si grave, c'est pas pire qu'une cigarette, alors qu'on vient d'entendre que finalement, fumer un pétard, ça équivaut à fumer je ne sais combien de
cigarettes. C'est l'équivalent en termes de goudron et de monoxyde de carbone.
Voilà, mais quand même, je pense que c'est important aussi de savoir que malheureusement, quand on est adolescent, rencontrer le pétard, même très informé, parce que moi j'étais très informée sur les risques de mort qu'on pouvait, vers quoi on pouvait aller, c'est pas malheureusement la solution uniquement que de dire que la santé va en souffrir.
Vous vous souvenez de... Alors, j'ai commencé par un joint, donc du coup on a envie de vous dire, est-ce que vous vous souvenez du 1er juin?
Oui, je me souviens
du jour où.
Oui, oui. Parce que je me souviens d'avoir vu passer des pétards devant moi. Et moi, j'ai dit non, moi, j'y touche pas. Je sais où ça mène, je sais où ça mène. Et puis un jour, à voir que les autres étaient plutôt marrants, sympas, qu'ils échangeaient des idées, je me suis dit finalement, c'est pas bien grave. Allez, fais voir, fais goûter.
Donc, excusez-moi, vous n'avez pas répondu à une souffrance particulière, enfin, telle que vous nous décrivez les choses. Vous ne répondez pas à une souffrance particulière, un entourage familial qui explose, une peine de cœur, enfin, je ne sais quoi encore, ou une souffrance particulière au moment où vous prenez votre premier joint. Vous faites comme vos copains.
Je pense surtout que, en fait, comme j'ai commencé très tôt, j'étais pleine de rêves d'enfant, pleine d'idéaux, et puis je me disais, ça y est, je suis enfin grande, je vais pouvoir réaliser mes rêves. Mmh. Et je suis tombée sur le discours des adultes qui est, maintenant, arrête de rêver, atterris, la réalité, c'est quand même autre chose. Et puis, si tu bosses pas à l'école, tu vas finir par ramasser les poubelles ou être femme de ménage. Donc, c'est vrai que c'est pas très, très motivant dans la vie. Donc, pour avoir l'impression que ça me donnait au début, c'était que le fait de fumer me donnait une liberté d'être moi-même, de pouvoir communiquer plus facilement, de pouvoir échanger. Mais le piège, c'est que cette volonté qu'on a au départ et cette illusion qu'on a au départ, très vite, elle se referme sur nous-mêmes. Et là, on est vraiment isolé.
Dites-moi, Hélène, entre le 1er juin et le passage à l'héroïne, il s'est passé combien de temps, ce qui vous concerne?
Je dirais, moi, 1er juin, après, ça a été l'acide, donc le LSD. Et puis après, l'héroïne, c'est venu, je pense, un an après, environ. Et ça s'est produit parce que ce jour-là, il n'y avait rien à fumer. Mais par contre, il y avait des gens qui shootaient à côté de moi. J'ai dit, vas-y, fais voir. Et voilà.
Vous rendez compte, dans tout ce que vous ce dont vous témoignez, c'est... En gros, ça passait par là.
Et
donc,
oui.
J'allais vous dire, c'est d'autant plus inquiétant qu'on se dit que c'est, un, facile d'accès, deux, que vous faites ça dans un cadre où vous n'êtes pas particulièrement perturbé, que voilà, c'est... Le premier pétard pour faire fumer avec les copains et se sentir bien, et puis ensuite, il y a de l'acide, et puis éventuellement de l'héroïne et la shooteuse.
Voilà. Tout à fait. Mais je pense aussi que je cherchais autour de moi des exemples de gens épanouis, bien dans leur peau. J'en voyais pas. Par contre, je voyais des gens qui s'exprimaient avec sincérité, avec authenticité. Donc, je suis tombée dans le panneau en me disant, la seule façon d'avoir des relations avec l'autre qui soient spontanées et vraies, ça passe par le pétard, la shooteuse et le reste.
Alors, est-ce que c'est souvent
quand même,
que...
Ouais. Malheureusement, pas du tout le cas.
C'est-à-dire vous voyez défiler du monde, William Levenstein. Ouais, est-ce que c'est souvent comme ça? Est-ce que finalement, témoignage et ce parcours, il est assez typique ou révélateur?
Heureusement, le parcours sur les 11 millions de Français qui ont fumé, il est plutôt atypique, parce qu'il n'y a que 3% maximum de gens qui auront le parcours qu'a eu Hélène. Donc là-dessus, on pourrait presque dire quel est le facteur de résistance qui fait que 97% des gens, vont jamais toucher à l'héroïne. Mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est toujours de dire au début quelles sont les fonctions positives de la substance rencontrée, même s'il y a un premier usage, on va dire, d'initiation par les pairs. C'est, en effet, ça passe par là. Chez vous, ce que j'ai entendu, c'était cette modification un peu de l'interdit au rêve, de cette anticipation anxieuse. Vous n'alliez pas finir SDF ou à vider des poubelles. Et d'autre part, une vraie modification de la relation aux autres. Et si on n'explique pas aux gens que les substances, même banalisées, modifient des choses aussi évidentes que la pensée, que la relation aux autres, que l'idéal, que le sommeil ou l'appétit, ce qui peut arranger beaucoup de jeunes femmes aussi à une période où tout ça ne fonctionne pas forcément facilement. Il faut dire pourquoi ça marche au début, pour le dire comme ça. Et après, quel est le processus qui va faire qu'au fil des abus, des répétitions, va s'installer quelque chose dans lequel la volonté n'aura absolument plus sa place, qui qu'on soit, quels que soient les rêves initiaux, où là, on est au stade de maladie. Mais au début, une substance, elle a toujours des fonctions positives, et j'ai l'impression que pour vous, c'était comment c'est garder une forme d'idéal, en fait, hein, comment trouver des choses intéressantes, et comment être un peu plus facilement avec les autres. Ouais. Et ces substances psychoactives ont fini par oublier dans notre pays qu'elles modifient notre fonctionnement le plus intime. Intime, mais aussi de la relation aux autres. Et c'est ce qu'on entend toujours dans le parcours des patients qui, au début, voient ces fonctions positives avant que tout ça, évidemment, se modifie au fil des consommations.
Alors, on sait donc désormais que 3 joints valent un paquet de cigarettes. Test effectué très sérieusement par 60 millions de consommateurs dans son numéro d'avril, avec la pointe d'une étonnante machine à fumer. Les spécialistes, vous allez le voir dans ce reportage, confirment leurs inquiétudes et souhaitent surtout communiquer auprès des jeunes. Et là aussi, vous le verrez, ça ne sera pas facile. David Doucan, David Lemarchand.
Cette machine a fumé 280 joints. Herbe pure, mélange tabac-herbe ou tabac-résine. Dans tous les cas, les mesures sont sans appel. Fumer du cannabis, c'est encore plus nocif que la cigarette. Résultat d'une étude menée par 60 millions de consommateurs. Dans son édition du mois d'avril, le magazine titrait « 3 joints » égale un paquet de cigarettes. Pour obtenir ces données, les enquêteurs de 60 millions ont dû rouler des pétards. Il leur manquait le savoir-faire, mais il était capital que la machine fume dans les conditions du réel.
Première étape pour élaborer les joints, il a d'abord fallu les définir, c'est-à-dire en termes de quantité, combien de matière on met dedans, quel papier, quel filtre, etc. Et pour ce faire, on s'est rapproché des gens de la petite Sainte-Pétrière et on a fait une enquête auprès de consommateurs de ces produits pour voir comment définir l'élaboration des joints eux-mêmes.
Et là, ça, c'est long.
Voici le professeur Bertrand Dotzenberg. Ce pneumologue a initié et supervisé cette étude. Il a analysé les résultats et il ressort que l'on retrouve les produits toxiques de la cigarette dans le cannabis.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça là, professeur ?
C'est un tableau qui montre les effets de la fumée du tabac avec monoxyde de carbone, goudron, cadmium. C'est la même chose que le cannabis. La seule différence, c'est ici de la nicotine, ici du THC. Mais toxicité identique pour les deux produits et même un peu plus pour le cannabis qui libère plus de produits qu'une cigarette industrielle.
Et vous les mettez où là, ces panneaux ?
C'est des panneaux qui sont faits pour les universités. Là, on est dans une association qui agit en université, festif, fac, école, sans tabac en Ile-de-France. Mais on fait aussi beaucoup sur le cannabis. On ne peut pas parler de tabac sans parler de cannabis et sans parler de chicha et d'autres choses qui se fument.
Faire passer cette vision auprès des jeunes, voilà justement toute la difficulté. Car il existe une idée préconçue. Si le tabac est nocif, c'est à cause des additifs industriels. Idée totalement fausse. Ce qui est mauvais, c'est la combustion.
Et l'air, même si on l'a fait sur son balcon, même si on est bio, mais pas de pesticides et que c'est très propre, etc., quand ça brûle, ça fait du goudron, ça fait des cancérogènes, ça fait du monoxyde de carbone et ça vous pollue le poumon. Donc l'homme n'est pas fait pour mettre de la fumée dans son poumon. La fumée, c'est à la cheminée, c'est de la pollution, point.
C'est la combustion, en fait, qui est toxique.
C'est la combustion. Et comme quand on roule un joint, ça brûle moins bien qu'une cigarette, la température n'est pas optimale, ça manque un peu d'oxygène et la combustion est incomplète. Et quand quelque chose brûle avec une combustion qui n'est pas parfaite, qui est incomplète, c'est pire.
Said this no dread. Yeah. We talk more dread. Signal.
Nous voici dans une salle de concert parisienne. Ce soir-là, sur scène, Doc Israël, un rastaman tout droit venu de New York, l'un des chanteurs les plus spirituels de sa génération. Doc Israël, expert du rastafarisme. Cette culture jamaïcaine qui implique la prise de cannabis. Il a conscience de la nocivité du produit, alors il explique que comme avec l'alcool, l'idée c'est de ne surtout pas en abuser.
Dans la culture rastafarienne, tout ce qui est consommé dans l'excès est mauvais. Et lorsqu'on discute avec les sages en Jamaïque, ils vous disent la ganja fait partie d'un ensemble. Mais fumer, ce n'est pas une fin en soi. L'excès est mauvais. Il faut aussi la discipline et la méditation. En fait, pour nous, c'est valable dans un contexte spirituel. En réalité, c'est une communion, comme avec le vin dans certaines religions.
Message de modération difficile à faire passer auprès de la jeunesse. Beaucoup restent encore dans la croyance erronée que l'herbe est bien moins nocive que le tabac.
Bon, alors vous avez vu qu'il y a donc le professeur Dotzenberg, puis il y a aussi le docteur Israël. Donc on ne savait pas qui consultait, mais il a des choses à dire. Alors, où en est le débat sur la dépénalisation du cannabis en France? C'est la première question qui nous est posée ce soir. Bon, on va dire au minimum, mais entre parenthèses, non? Surtout après les déclarations de Jacques Chirac hier.
Oui et non, parce que tout le monde s'accorde à dire que la loi de 1970, maintenant, est dépassée, inadaptée. Encore une fois, je ne crois pas que l'idée de pénaliser au sens de criminaliser un usager, voire un patient qui est devenu dépendant, donc quelqu'un de malade, soit encore recevable dans une société digne comme la nôtre. Donc, est-ce que l'on va enfin arriver à une contraventionnalisation pour maintenir l'interdit, mais que la mesure d'interdit soit symboliquement adaptée? Moi, je l'espère, et je pense que, évidemment, en période électorale, c'est toujours à double tranchant. Oui. Certains vont choper ça, d'autres vont continuer de vouloir mettre du napalm sur tous les champs de coca, de cannabis du monde entier et protéger leurs viticulteurs en France d'autre part. Donc on aura des faux débats encore pendant un an. Après, est-ce que l'on va revenir encore une fois dans un plan national contre les addictions, avec ce que ça veut dire, oui, aussi du point de vue politique? Criminalisation, c'est plus tenable. Enfin, ça n'a aucun sens, même maintenant, en termes d'efficacité, d'application et de respect des droits de l'homme.
Un plan, je le rappelle, où on parle au même moment de l'alcool, du tabac et du cannabis.
Exactement. On voit bien, en fait, c'était en filigrane pour Hélène, c'est impossible maintenant de donner une information ou faire une prévention qui ne soit pas une prévention TAC, c'est-à-dire tabac, alcool, cannabis. Les polyconsommations sont en rendez-vous de plus en plus tôt, et si votre livre s'intitule « Tout a commencé par un jour », on aurait peut-être pu dire aussi
«
Tout a commencé par l'alcool ».
Je dis ça amicalement, elle buvait, beaucoup.
Voilà. Donc il faut bien souligner cette histoire de ces produits ensemble. Il me semble, même s'il y en a un qui reste illicite et deux qui sont, hélas, légaux peut-être, de dire tabac, alcool, cannabis, même approche de prévention, de prise en charge, de soins des addictions.
Marie-Jeanne Lucet, est-ce qu'on peut faire une petite fiche technique sur notre test? D'abord parce que je pense que c'est un précédent et que, il n'y avait pas d'équivalent de ce type.
Non, ça n'a jamais été fait.
Alors, deux, trois choses, dont certaines qui me font sourire. Où est-ce que vous êtes allé chercher la chenouf? Parce que...
Oui, en effet,
c'est quand même 60 millions de consommateurs, des maisons honorables, donc voilà, il y a la loi.
Non, mais c'est vrai que le principe de base de tous nos tests, c'est d'acheter de façon anonyme, comme n'importe quel consommateur, les produits que nous testons.
Donc vous êtes descendu en bas de l'immeuble, les premiers loulous de...
Eh bien, c'est justement ce que nous n'avons pas voulu faire, et c'est pour ça que ça nous a pris un peu, de temps d'ailleurs. Et on ne voulait pas aller chez les dealers pour...
C'était de la bonne
Elle donne pas la
bonne. Je vais la donner. Et c'est pour ça que nous avons collaboré avec la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie pour obtenir toutes les autorisations officielles comme les chercheurs. Et c'est le laboratoire de police scientifique de Lyon qui nous a fourni... la matière première.
Alors, vous avez bénéficié en fait de ce qui avait dû être une saisie
du
laboratoire de police.
Et pour la petite histoire, c'est même un commissaire de police qui est allé chercher, qui a été mandaté, qui est allé à Lyon chercher, qui était autorisé à transporter parce qu'il faut des autorisations spéciales. Et nous-mêmes, nous avions eu des autorisations spéciales pour mettre cette matière première au laboratoire.
Vous ne m'avez pas dit si elle était bonne?
Écoutez, je ne peux pas vous dire ça parce que la machine ne me l'a pas dit.
Je vais pas réussir à la piéger. Bon, il y a bien quelqu'un à la rédaction qui a goûté, quoi.
Pas du tout, parce que ça n'est jamais venu à la rédaction. C'est allé directement
au
laboratoire.
Oui, avec vos experts en blouse blanche, etc.
Mais alors, qui roulait alors?
Oui, voilà, exactement. Qui roulait et combien? Merci.
Alors, 280 joints. Effectivement.
Oui. 280 joints.
Il nous a fallu 280 joints parce que là, il a fallu mettre au point ce protocole et effectivement, nous avons travaillé avec le professeur Bertrand Dotzenberg et l'équipe d'ailleurs d'addictologie de la Pitié-Salpêtrière qui a fait une enquête préalable auprès d'une centaine, avec des questionnaires assez détaillés, une centaine de consommateurs pour savoir c'est quoi un joint de cannabis. Mmh. Excusez-moi, il n'y avait jamais... on ne s'intéresse pas aux produits, mais c'était pareil avec la cigarette. Il n'y avait que les industriels qui s'intéressaient à la cigarette. Mmh. Et sur le cannabis, comme c'est une drogue illicite, les chercheurs s'intéressent à l'effet sur le cerveau, oui, oui. Mais sur le produit lui-même, en tant que produit de consommation... Donc, nous avons dû établir combien de cannabis il nous fallait. Donc, cette enquête préalable a permis de dire, voilà, il faut tant de... les joints, c'est 0,4 g de résine plus 0,4 g de tabac pour les joints mixtes, ou de 0,4 g d'herbe, 0,4 g de tabac, ou 0,8 g d'herbe pure pour les joints d'herbe pure. On les roule avec du papier long, parce que le cannabis a beau être une substance illicite, le papier qui sert au cannabis, tout le monde sait qu'il ne sert qu'au cannabis, et celui-là, le papier long, il est en vente tout à fait libre. Et donc, nous avons travaillé avec des membres d'une association dont le but est d'aider les anciens toxicomanes, d'ailleurs, qui savaient très bien ce que c'était que rouler des joints. Et c'est eux qui ont roulé les joints au laboratoire.
On peut dire un petit mot aussi sur la toxicité de ce tabac moins cher et de ce papier moins cher que sont le tabac roulé et papier à rouler.
Qui reviennent en quelque sorte un sous-tabac et un sous-papier.
Exactement, et tout ça, bon, étant moins cher...
Et qui augmente la dangerosité.
Attention, le tabac que nous avons utilisé pour faire les joints, c'est le tabac de la Marlboro rouge. Et nous avons comparé à la cigarette Marlboro rouge, qui est la cigarette...
Pour équilibrer le test, en fait.
Ah oui, et puis l'intérêt, c'était la comparaison avec les mentions qui sont sur les paquets de cigarettes.
Alors, je dis
c'est pour
simplement,
ça que nous avons utilisé la machine à fumer.
Quand on parcourt le magazine, on rit, parce qu'on voit nos tests de fumage. Bon, alors, évidemment, ça aiguise un petit peu la curiosité, etc. Après, on voit la machine, ça fume dans tous les coins.
Là, vous l'avez vu, oui.
Oui,
déjà,
oui, les deux idées qu'il faut retenir de tout ça.
Les deux idées, c'est... autant maintenant, même les jeunes stigmatisent le tabac, ils fument des cigarettes, mais ils savent aujourd'hui que la fumée de la cigarette, c'est polluant et c'est toxique. En revanche, sur le cannabis, ça paraît un produit naturel. Oui. Je dirais que personne n'a l'idée que la fumée de cannabis tue tout autant que celle du tabac. Mmh. Et donc, l'intérêt, c'est cette comparaison avec les mêmes protocoles, la norme de fumage ISO 3308 qui sert à inscrire, à mesurer les mentions, à faire les mentions en nicotine, en goudron, en monoxyde de carbone qui figurent sur les paquets de cigarettes. Et c'est la comparaison avec les teneurs en substances toxiques qui sont dans les fumées de cigarettes avec celles de la fumée de joint de cannabis. C'est ça l'intéressant, c'est de voir, ça va à l'encontre d'idées reçues.
Ils ont tout fait, hein. C'est très sérieux. Ils ont fait herbe plus tabac, résine plus tabac, herbe pure, Marlboro rouge, enfin voilà.
Et benzène et toluène, parce que c'est pareil, si vous voulez, quand on a découvert que, bien, quand ce qu'on fumait, il pouvait y avoir du benzène et du toluène... Ouais. Ça nous a quand même, quand on fumait des cigarettes, ça nous a quand même beaucoup intrigués. Je dis nous tous consommateurs, même les fumeurs, j'ai été fumeuse de cigarettes. Mais c'est pour ça qu'on a aussi mesuré les teneurs en benzène et en toluène. Il y a quand même deux fois plus de benzène, trois fois plus de toluène dans les joints, quels qu'ils soient. Entre parenthèses, quand on fume des joints mixtes, tabac plus cannabis. On ingère aussi plus, on inhale encore plus de nicotine. Donc on accroît la dépendance au tabac.
Dotzenberg, il dit voilà, poumon, gorge, cœur, le joint est pire que la cigarette.
Bah, oui,
ça, c'est des notions nouvelles.
Oui, tout à fait.
Artérite aussi, on peut. Vous savez ce qui bouge les artères des jambes. Oui. On a de plus en plus de gens jeunes. Alors peut-être qu'il y a un cofacteur, par exemple méditerranéen, mais qui ont des artérites sévères précoces, c'est-à-dire des gens à 30 ans qui ne peuvent plus marcher sans avoir une insuffisance artérielle. Donc pour l'instant, ce sont des anecdotes tristes, pas encore une épidémiologie, mais au nom du principe de précaution et avec une étude qui n'est même pas, si je puis me le permettre, dans une grande revue scientifique. Et c'est ça que je déplore,
pas
par rapport à votre étude,
sûr,
c'est que ça
n'a
pas été fait,
sommes...
qu'on a été un foutu de le faire. Vous voyez, c'est, oui. Il faut que quelqu'un de courageux et organisé comme vous puisse le faire. On a d'avoir quelques craintes.
Sylvie Angèle, je viens à la seconde partie du reportage qui était tout aussi intéressante, parce que finalement, on avait quelqu'un qui, assez raisonnablement, nous faisait comprendre que même en ayant des conseils d'utilisation raisonnée, on est dans une salle de concert, comme dans toutes les salles de concert où il y a des ados qui vont pour assister, et ça fume dans tous les sens. Et du coup, on se rend compte que ce discours sur, j'ai même envie de vous dire, ce discours d'adulte sur la dangerosité du produit que nous tenons, on a l'impression qu'il est inaudible. Est-ce que c'est bien le cas? Et si oui, pourquoi?
Alors oui, c'est le cas, parce que je crois que même pour le tabac, on a eu l'expérience du tabac. On a su, un peu tardivement, que le tabac avait des méfaits. Et on sait très bien que, par exemple, les médecins avaient du mal à s'arrêter de fumer.
Oui.
Et même aujourd'hui encore, il y a beaucoup de médecins qui continuent de fumer, alors que, je dirais, au niveau information, on est parfaitement convaincu de la toxicité. Donc on sait très bien que l'information ne va pas changer les comportements. Donc l'idée est de comprendre pourquoi il y a ce type de comportement, parce que des drogues, il y en aura toujours, des légales et des illégales. On a changé de drogue à chaque fois, on en a créé de nouvelles. Donc qu'est-ce qui sous-tend le comportement individuel?
En même temps, pardonnez-moi, c'est important de leur dire ce qu'on découvre.
Bien
dans
sûr,
le...
c'est très important.
Voilà,
au contraire.
Dans 60 000... voilà, on peut pas faire semblant de ne pas le savoir. Faut le dire, mais on sait que c'est pas ça qui, enfin, j'allais dire, ça ne l'aurait pas empêché de fumer.
Exactement.
Son premier pétard à partir du moment où elle en avait envie.
Voilà. Hélène aurait lu ce journal, elle aurait continué à fumer et ça n'aurait pas changé les choses. Alors. Il y a dans ce reportage, que je trouve tout à fait intéressant, le biais quand même de l'amplification des émotions par les modifications du champ de la conscience par les substances actives, comme l'a dit William tout à l'heure. Le fait qu'en effet, on est là avec la musique, le groupe Les Pairs, P-I-R-S, et que dans ce mouvement-là, il y a l'envie de retrouver quelque chose de particulier. Hélène disait très bien tout à l'heure, la communion, les jeunes, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le besoin de se raccrocher à un groupe est très important, et on a quand même envie de dire, c'est une époque particulière, l'adolescence. Surtout les très jeunes adolescents. Hélène, elle a commencé avec 12 ans. Donc quand on est très très jeune, on est très très vulnérable. Et c'est pas du tout pareil que quand on a, je vois mon âge aujourd'hui, de dire, ok, je prends un verre d'alcool ou je veux faire... On est conscient à l'âge adulte des risques qu'on prend. Bon. Mais quand on voit le reportage, ce sont des adolescents et souvent des très jeunes.
J'aimerais savoir si vous nous dites, d'une certaine façon... un joint ça va, trois joints bonjour les dégâts. Pardonnez-moi, je reprends volontairement est-ce qu'on est dans cet esprit-là en ce moment ou pas?
Je pense qu'on peut pas l'être encore une fois légalement, qu'il y a cette forme d'interdit qu'on a évoqué. Après, si l'on veut être un peu plus précis, c'est vrai qu'il faut différencier l'usage occasionnel des abus répétés et de la dépendance. Parce que je pense que le changement de comportement, il peut en effet ne pas arriver au stade de dépendance, voire même d'abus répétés. Mais au stade d'usage, l'information, me semble-t-il, peut servir éventuellement prévenir les répétitions et maintenir en usage occasionnel. C'est pas une fatalité d'être dépendant. Donc, est-ce qu'on peut fumer avec modération
j'en sais
même
rien,
du
moi,
cannabis
c'est pas une fatalité. Vous me dites, c'est pas une fatalité d'être dépendant.
Non,
j'en sais rien.
À l'heure actuelle, comme pour l'alcool, si vous voulez, quand un pays civilise ses drogues, c'est-à-dire finit par en parler assez tranquillement, en souriant, parfois en disant aussi des informations sérieuses et inquiétantes, on finit par avoir une modération. C'est-à-dire qu'on peut, en effet, comme avec l'alcool, qui est une drogue d'une violence invraisemblable, qui est la première drogue que vous avez consommée dans votre existence, la première drogue qui agit sur votre cerveau, on peut finalement n'avoir, si j'ose dire, que 10% de personnes dépendantes. Ça veut dire que 90% des personnes sont capables de gérer leur consommation et qu'il y a d'autres cofacteurs qui échappent au simple produit. Il est vraisemblable qu'on sera dans ces chiffres-là avec le cannabis, qu'on l'est déjà. Sont des chiffres énormes, parce que alcool, ça veut dire qu'il y a 3-5 millions de personnes qui sont avec des usages à problème ou des dépendances, et cannabis, on est vraisemblablement autour de 300 000 à 400 000 personnes qui ont des dépendances ou des usages vraiment à problème. Est-ce qu'on peut fumer avec modération du cannabis? La réponse médicale en dehors de la loi, elle est oui, ça ne veut pas dire sans risque. Soit sans risque psychologique aigu, soit sans risque, on va dire, de passage à l'abus et à la dépendance. La définition de l'usage, médicalement, c'est quelque chose qui n'est pas nocif. Mais quand une drogue est interdite, on ne peut pas dire un usage n'est pas nocif puisqu'on se met hors la loi. Or, Il y a des usages, on le sait bien, même avec des substances très toxiques, qui ne conduiront jamais à des catastrophes sanitaires ni à la dépendance. Quels sont les cofacteurs qui font passer de l'usage à l'abus et de l'abus à la dépendance? C'est ça la médecine des addictions.
Il faut quand même que je vous demande pourquoi vous avez... D'abord, est-ce que vous avez choisi le titre de votre livre?
Non, j'ai pas choisi le titre de mon livre, voilà. Justement, je trouve
que... Non, mais il est porteur de quelque chose, si vous voulez, d'extrêmement fort dans tous les sens du terme. Donc, quand on dit « j'ai commencé par un joint », voilà, est-ce que c'est... J'allais vous dire, est-ce que c'est vrai? Enfin, vous comprenez dans quel état d'esprit je le dis. Et est-ce que ça décrit un processus et une montée en puissance?
Alors, moi, justement, le titre me dérangeait un peu, en ce sens que je connais effectivement des gens qui fument, je dirais, au même titre que... on peut une fois par mois aller dans une fête, boire deux coupes de champagne et le lendemain on a une bonne gueule de bois et puis on s'en tient là.
Sauf qu'il est bon votre titre, Hélène, parce que excusez-moi, c'est pour ça que vous êtes là. Pardonnez-moi, vous comprenez ce que je veux dire. Mais oui. Non, mais on peut pas être naïf. C'est aussi pour ça que vous êtes là et qu'on s'intéresse à ce voilà. Si ça s'était appelé moi Hélène, etc.
Voilà. Vous comprenez.
Non, mais vous soutenez pas la théorie de l'escalade, qu'on soit
Le bouquin s'appelait Tout commence par un joint. Et j'ai bataillé pour dire j'ai commencé par un joint, parce que mon escalade, elle a été effectivement au démarrage avec en fumant des pétards. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui fument de façon occasionnelle, et je dirais à l'inverse, c'est aussi dangereux que l'alcool. Je pense que ce serait mentir que de dire que l'un est plus dangereux que l'autre. C'est aussi dangereux que l'alcool. Effectivement, une coupe de champagne ou un verre de bon vin,
une fois de temps en temps... Vous n'avez pas appelé, tout a commencé par l'alcool, ce qui aurait pu aussi être un intitulé.
Mais ce que je trouve dangereux justement, c'est que finalement, moi, j'ai commencé par l'alcool parce que j'étais dans la loi. Et qu'ensuite, je suis passée au pétard parce que finalement, ça me semblait moins dégueulasse et presque moins dangereux. Et aussi parce qu'on m'avait tellement dit que c'était un truc affreux, la drogue en général et les drogues douces, que du coup, je me suis dit, mais non, ça, c'est un discours de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc c'est un petit peu l'effet pervers d'en dire trop aussi. C'est aussi dangereux que l'alcool. Et ça détruit une personnalité au même titre que l'alcool.
Justement, nous allons parler maintenant du cannabis et de son usage, on va dire, régulier par beaucoup de jeunes Français. Les enseignants, je dis bien les enseignants, expliquent que le joint est un problème et que parfois, sans lui aussi, ce qui peut paraître contradictoire, on ne viendrait même pas en cours. On parle de plus en plus de cannabis comme d'un déstressant, en quelque sorte incontournable, à un âge de la vie difficile. Reportage et témoignage, Anne Poiret, Maxime Liogier.
Bienvenue dans un lycée comme un autre. Bienvenue dans un lycée où, comme partout ailleurs en France, plus de la moitié des élèves consomment du cannabis, occasionnellement ou régulièrement. Jérémy, 17 ans, a lui commencé en 5e. Aujourd'hui, il fume presque tous les jours.
Ça commence comment ? Ça commence, on prend une latte. Bon, en général, comme on est petit, on a un petit corps, ça nous fait beaucoup, juste avec une latte. Et après, plus tard, on y repense, et un jour, on est en fête. On a envie d'être comme les gens qui sont bien, quoi, qui rigolent, donc on fait comme les gens.
Et après, c'est tous les jours?
Ça dépend. Faut juste savoir gérer. Il y en a qui savent pas gérer, qui finissent avec un paquet de cigarettes, à fumer un paquet de cigarettes en roulant que des joints, en un jour. Après, c'est une question de...
Toi, tu penses que tu gères?
Ouais, moi, je gère.
C'est un cas banal ici?
Oui, je pensais être un cas banal.
Une consommation qui pose parfois problème pour les enseignants. Absentéisme, manque de concentration, désocialisation pour les plus gros fumeurs.
Ça peut être 5, 6 dans la journée, peut-être même plus. Enfin, ça peut être très fréquent.
Oui, il y a des jeunes qui arrivent en classe en disant « j'ai fumé 3 joints parce que sinon je ne serais pas rentrée dans l'école ».
Ça, c'est nouveau?
Non. Non, non, c'est pas nouveau. Enfin, pas pour moi, ça commence à faire quelques années. Non, non, je crois que ça a toujours été comme ça, pas forcément dit comme ça. Mais le fait que ce soit un anxiolytique, tout le monde sait que le jeune le ressent d'abord comme ça, et puis comme un truc de groupe aussi. Hein. Mais c'est vrai que souvent ils disent c'est avant qu'il faut que je fume, sinon j'arrive pas à passer la porte. Quoi.
Des adolescents qui commencent à fumer beaucoup plus jeunes, des produits beaucoup plus addictifs. un phénomène de société tel que les pouvoirs publics ont décidé de financer des consultations dédiées au cannabis, des consultations dans des lieux habituellement réservés aux toxicomanes. Ici, on fait également de la recherche grâce à ces enregistrements. Le but, améliorer l'aide offerte à ces adolescents.
Alors, dans quelles circonstances vous fumez encore ?
Je sais pas en fait.
La demande ne vient rarement, voire jamais, des adolescents. La demande est supportée par les parents et qu'ensuite il faut faire en sorte que la motivation extrinsèque, hein, parentale, environnementale, scolaire, soit transformée en une motivation intrinsèque, c'est-à-dire propre à l'adolescent. C'est ça la particularité. L'autre particularité du cannabis, c'est ses propriétés anxiolytiques, c'est-à-dire anti-stress. Et certains adolescents y sont attachés parce que pour eux, c'est leur seul moyen de gérer un stress de la vie quotidienne.
Certains en viennent parfois à l'hospitalisation. Dans cette clinique spécialisée dans les addictions, c'est même le troisième motif de prise en charge après la cocaïne et l'alcool. Aymeric a 10 ans de cannabis derrière lui. 15 joints par jour au plus fort de sa consommation, soit près de 1 000 euros par mois.
J'avais type ben, 2 pétards avant de partir à l'école, 2 à midi avec les autres élèves et puis une dizaine le soir.
Qu'est-ce que ça vous apportait ?
Je dirais un ersatz de sérénité. J'avais l'impression que ça calmait mes angoisses, que ça calmait mal être. Je me suis voilé la face, je me suis dit non, il n'y a pas de problème, c'est une substance anodine, c'est pas de la drogue dure. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'a volé des années de ma vie, clairement. J'ai eu vraiment la volonté de m'en sortir quand j'ai vu que ça faisait souffrir les gens autour de moi, ma copine, mes parents. Quand j'ai commencé à me rendre compte de leur souffrance, c'est d'abord ça qui m'a fait prendre conscience de ma propre détresse.
Thérapie, médicaments de substitution et des activités pour reprendre goût à la vie. Aymeric s'est promis de ne pas replonger et de rattraper le temps perdu. À 23 ans, il passera enfin son bac en septembre.
On a une nouvelle question de téléspectateurs. Des difficultés scolaires peuvent-elles pousser un adolescent à la consommation de cannabis ? En fait, vous voyez, on tourne toujours autour de ces questions et on sait que c'est très difficile d'y répondre en même temps qu'il faut apporter un élément de réponse. Voilà. Alors, le médecin, il dit quoi ?
Le médecin, il dit oui dans les deux sens, c'est-à-dire que la consommation de cannabis va entraîner des difficultés scolaires dans un certain nombre de cas, à cause de la concentration, à cause de la mémoire. Et on voit quasiment, surtout en troisième ou en seconde, un certain nombre de jeunes personnes redoubler à cause de ça. Donc il y a les conséquences. Après, bien évidemment, ce cerveau de l'adolescent, hélas, il est fait pour recevoir du cannabis. Pardonnez-moi de vous le présenter comme ça. Tellement l'hyper-émotivité est grande, tellement l'immédiateté peut être stressante, c'est difficile pour un adolescent de répondre à ses parents, se projeter dans le futur, essayer de réfléchir à tout ce qu'il doit faire pour gagner 10 points de retraite éventuellement dans 30 ans, alors que l'hyper-émotivité, okay, est plus importante là. Et ce cannabis sur le stress, sur l'anticipation anxieuse, sur la relation aux autres, si j'ose dire, à cette période-là, hélas, il est d'une efficacité terrifiante dans un premier temps.
Oui, en effet, c'est terrifiant ce que vous dites. Et alors, surtout, c'est l'illustration totale du reportage. C'est-à-dire, on a des enseignants qui nous disent, comprenez, parfois, c'est pas facile de faire cours à une classe où il y en a quand même un sur deux qui a fumé un pétard avant d'aller en cours. Et puis après, ils finissent par nous dire, remarquez, d'une certaine façon, heureusement qu'on a le pétard parce qu'ils viendraient même pas en cours tellement ils sont stressés. C'est ça ?
Oui, bah, je crois qu'il y a une société, vous le savez bien, de plus en plus pressante au sens pression individuelle du terme. On n'a pas le droit d'être un loser, même en sixième. C'est tout juste vers la maternelle. Les parents commencent pas à s'inquiéter pour savoir si le petit va aller dans une bonne école ou dans la classe suivante. Alors, quand il y a le bac qui se profile, ou la troisième, ou la seconde, ça devient ubuesque.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a 30 ans, on fumait pour s'amuser et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour accompagner... accompagner un stress et une angoisse.
Une conduite dopante du quotidien, vous voyez, en termes de formule. Avant, vous aviez des gens qui étaient les sportifs, qui montaient des cols du Tourmalet plus facilement en prenant des substances. Maintenant, il y a des mômes qui, pour combattre l'ennui et le stress à l'école, vont consommer.
J'aimerais vous reposer 2-3 questions sur votre parcours. Qu'est-ce qui fait que vous en sortez à un moment ?
Parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec le temps que, des motivations pour l'école, donc j'avais perdu complètement confiance en moi. Je me suis aperçue que je ne concrétisais aucun de mes rêves. C'est-à-dire que petit à petit, finalement, au début, oui, on a une sensation de liberté d'être. Et puis, progressivement, ça se referme sur nous. C'est-à-dire que on a aussi l'impression d'être plus créatif, plus sensible et des choses comme ça.
Et tout est faux.
Et tout est faux parce qu'en fait,
au contraire... Donc il y a tromperie sur la marchandise.
Voilà, au contraire, quand on avance, on se retrouve complètement isolé, on perd l'amitié, on perd le goût des choses, on perd la passion des choses. Et puis surtout, je dirais maintenant avec le recul, je me suis bien rendu compte d'une chose, c'est que finalement, je voulais à travers la défonce en général avoir des rêves, je ne voulais pas rentrer dans le moule, je ne voulais pas rentrer dans la compétitivité que les adultes me proposaient. Je trouvais qu'ils étaient fort peu représentatifs de quelque chose qui était passionnant, motivant, il n'y avait pas d'idéaux, bosser toute sa vie pour gagner pas grand-chose et puis attendre la retraite, je trouve toujours pas ça très motivant. Par contre, j'ai trouvé que le pétard, avec le temps, ça enlevait, ça tuait et surtout, ça voilait tous mes rêves et toutes mes capacités à le réaliser.
On se demande toujours si la publication d'un livre de ce type, un livre de témoignage, un document, c'est la fin d'une thérapie, ça marque un point final à quelque chose et... Non,
non. Je pense que j'en suis sortie il y a déjà bien longtemps.
Oui, mais j'ai un point revenir... final peut venir nettement plus tardivement, puisque en effet vous décrivez une période adolescente.
Non, j'ai surtout voulu être utile aux autres. J'ai voulu être utile aux jeunes qui se font piéger parce que il y a cette idée effectivement que on a une part de rêve, on peut s'autoriser à rêver au lieu d'être compétitif, être le premier de la classe ou alors un loser. Il y avait autre chose et en fait non, j'ai constaté que finalement si on veut réaliser ses rêves dans la vie, la dernière des choses à faire c'est de fumer des pétards.
Vous êtes maman ?
Oui, je suis maman.
Et ça vous préoccupe, ces questions-là, pour
vos
enfants ? Bien
sûr, parce que j'ai des filles qui ont bientôt 12, deux filles, donc 12 et 14. Donc elles sont. Je vis dans un pays où, chez nous, ça pousse tout seul. C'est-à-dire que c'est vraiment le supplice de Tantal. Heureusement que je ne fume plus. Mais oui, particulièrement. Mais en même temps, ça ne m'inquiète pas vraiment, parce que je pense que j'ai cultivé chez elles le droit à être ce qu'elles sont. Je dirais, mon attitude de maman, ça a été de savoir que c'est une petite graine, chacune d'entre elles, que mon rôle, c'est d'arroser avec bienveillance pour voir germer, voir s'épanouir ce qui était dans le potentiel de cette petite graine. Et non pas un transfert de ce que j'ai fait ou j'ai pas fait, ou ce que je voudrais qu'elles deviennent, avocat ou médecin. Non, moi, je leur demande d'être ce qu'elles sont dans le fond.
Vous leur faites pas goûter trop tôt les punchs et autres boissons.
Non, bien sûr, bien sûr. Au contraire, à la limite, je dirais qu'on en parle plutôt en termes de s'épanouir et d'être elle-même, quoi qu'elle devienne.
Sylvie Angèle, vous m'avez dit tout à l'heure quelque chose d'assez étonnant pendant le reportage sur la tolérance ou non des parents dans ces circonstances, puisqu'on tourne toujours aussi autour de ces questions. C'est comment on fait pour en parler à ses enfants, qu'est-ce qu'on leur dit, quelle est la permissivité, l'interdit, voilà.
Alors, l'adolescent, il vit dans un monde, et d'abord, il y a les parents. Et donc, l'anecdote que je racontais, là, c'est une mère que j'ai vue tout à l'heure, dont le fils fume du cannabis depuis fort longtemps. Et elle me dit, mais oui, mais j'ai accepté, parce qu'il ne peut pas s'en passer, donc j'ai accepté qu'il fume à la maison. Mmh. Et puis là, aujourd'hui, comme il a été interpellé par la police, et qu'il y a une histoire de dealer et de menaces, etc., je vais lui dire que maintenant, c'est fini. Donc on voit bien qu'à un moment donné, qu'il y a une loi qui n'est pas non plus intériorisée par les parents et qu'il peut y avoir, je dirais, une tolérance un peu embêtante par rapport aux produits. Mais les parents sont désemparés, ils disent « mais je ne sais pas quoi faire ». Or, peut-être que le problème, enfin le point positif, je dirais, de cela, c'est de dire « si je ne sais pas quoi faire, je peux demander de l'aide, moi, en tant que parent, parce que si je ne sais pas mettre des limites à mon enfant, c'est bien que c'est à partir de là qu'on va faire quelque chose ». Et à partir, je dirais, du hash, du cannabis, on a eu affaire à des parents angoissés, qui venait consulter parce qu'un enfant était fumait, alors qu'en fait, on avait un enfant qui était dépressif, qui était en échec scolaire, qui avait d'autres problèmes. Donc, grâce à ça, on pouvait commencer à travailler.
Alors, l'usage du cannabis est, je vous le rappelle, désormais considéré comme une cause avérée de mortalité sur la route. La troisième cause de mortalité, notamment pour les moins de 25 ans, et près de 10% des conducteurs impliqués dans les accidents mortels sont révélés positifs au cannabis. Reportage Romain Clément, Hélène Frade.
Au volant, somnolence, mauvaise appréciation des distances, jusqu'à la perte de contrôle,
voici les effets du cannabis. Sur les routes françaises, la consommation de cannabis est responsable de 230 morts par an. La troisième cause d'accidents mortels, après la vitesse et l'alcool. Ces résultats viennent relativiser l'alarmisme de travaux précédents. Mais pour Didier Jail, engagé dans la lutte contre la drogue et la toxicomanie, cette étude, baptisée SAM, stupéfiant et accident mortel, est la seule enquête de référence menée par des chercheurs indépendants.
Pas mal de consommateurs doutent, hein, mettent en doute l'existence même d'un risque cannabis. Bon, il a été prouvé par des études de comportement et il est prouvé par l'étude SAM, puisque l'étude SAM, pour la première fois, trouve une corrélation entre le taux du principe actif du cannabis qu'on appelle le THC et le risque est lié. Et c'est la première fois qu'une étude dans le monde réussit à montrer cette corrélation qu'on connaissait bien avec l'alcool, mais qui pour la première fois est prouvée pour le cannabis.
Ici, pendant 4 ans, des chercheurs ont décortiqué toutes les données de près de 11 000 accidents mortels survenus entre 2001 et 2003. Bernard Laumont a chapeauté cette étude. Ses conclusions ? Le cannabis multiplierait par 2 le risque d'être responsable d'un accident mortel et par 15 en cas de mélange avec de l'alcool.
Le gros risque, c'est le risque d'association cannabis-alcool. Ces conducteurs sont relativement rares dans les conducteurs circulants. On les estime à 0,4%. Eh bien, ces conducteurs représentent 5% des responsables d'accidents mortels. Plus gros consommateurs d'alcool et de cannabis, ce sont les conducteurs de deux roues motorisées. A l'inverse, on peut constater que les conducteurs de poids lourds respectent relativement bien, très bien la réglementation alcool. Il y a très très peu de rouge. En revanche, ils respectent beaucoup moins bien la réglementation cannabis.
Alcool et cannabis, un cocktail qui multiplie le sur-risque d'accident. Dans la nuit du samedi au dimanche, 3/4 des jeunes responsables d'accidents mortels sont sous l'emprise d'au moins l'une de ces deux substances. Deux substances qui, depuis 2003, peuvent entraîner la même sanction. En cas de dépistage, un conducteur positif au cannabis risque 4500 euros d'amende et encourt jusqu'à 2 ans de prison. Ces contrôles, Rémi Hetz, en charge de tous les gros dossiers de la sécurité routière, les juge compliqués à mettre en place. Il nécessite à chaque fois une prise de sang et la présence obligatoire d'un médecin.
Aujourd'hui, nous développons une politique de dépistage beaucoup plus systématique. Et par exemple, entre 2004 et 2005, le nombre de dépistages est passé de 3000 à plus de 15000. Mais il est certain que cette pratique du dépistage sera encore plus efficace quand nous disposerons d'outils plus simples que ceux existants sur le marché aujourd'hui, notamment lorsque nous disposerons de tests salivaires. Mais aujourd'hui, il existe des possibilités de dépistage et ces pratiques de dépistage sont de plus en plus fréquentes, notamment par exemple lorsqu'il y a un enjeu fort en sortie de boîte de nuit.
Prévus avant la fin de l'année, ces tests salivaires vont permettre de multiplier des contrôles à la fois plus simples, plus rapides et plus précis.
Alors, dans un instant, une question de téléspectateurs. Mais auparavant, on a glissé peut-être un petit peu rapidement pour évaluer le phénomène, mais on a quand même des chiffres qui sont extrêmement alarmants, notamment en nous comparant aux autres pays d'Europe sur l'usage du cannabis dans ce pays concernant les jeunes Français et les adolescents.
Oui, c'est vrai que quand on regarde les chiffres de la consommation de cannabis, on peut être impressionné. D'abord, le cannabis s'est répandu assez tardivement par rapport aux autres pays, par rapport à la Grande-Bretagne. C'est répandu en France dans les années 90. Mais je dirais que, en ce qui concerne la consommation des jeunes, non seulement la France a rattrapé son retard, mais elle a même dépassé tous les autres pays. Et quand, à 17 ans, par exemple, un jeune sur deux a déjà fumé, à expérimenter le cannabis. En consommation régulière, ce qu'on appelle la consommation régulière, c'est au moins 10 joints par mois, eh bien, il y a 15% des garçons et 7% des filles qui fument régulièrement du cannabis. Les garçons sont majoritaires, mais les filles, elles sont en train de monter. Donc, les jeunes en France, la France détient le record. Donc, pour la consommation de cannabis en Europe, les filles sont, les jeunes fument moins de tabac, de moins en moins de tabac. Ils boivent de moins en moins d'alcool, mais ils fument de plus en plus de cannabis.
Vous voulez y réagir, Sylvie Angèle ?
Mais oui, parce qu'en fait, on voit bien que, je dirais, on a un peu précisé les choses. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le produit qui leur correspond le mieux. Et en fait, on est comme pour les médicaments, on est en encore une médaille d'or. C'est bien.
Oui, mais ça, c'est à nous maintenant de faire un peu ce qui est évoqué, le côté fausse pub du cannabis. Ça. Comment diminuer l'attractivité de cette substance qui d'abord n'est plus utilisée comme il y a 30 ans et qui véhicule un petit côté babacool, sympa, naturel.
Moi, je crois que l'erreur, c'est de dire que c'est un plaisir interdit. Parce que tous les jeunes vont foncer dans le piège. Ce n'est pas un plaisir, même s'il est interdit. C'est sur le coup effectivement un plaisir, mais ça devient rapidement au contraire un bouffeur d'énergie.
Et puis
en plus,
on
se crée une dépression avec ça. Je dis pas que on n'est pas forcément, on est fragile à l'adolescence et on a des fois des difficultés. Et difficulté à rentrer dans le moule qu'on nous propose, mais par contre, de toute façon, le produit lui-même crée un état dépressif. C'est-à-dire que là où ça va nous donner une euphorie, un état de bien-être, une sensation de partage, etc., tout de suite, le contre-coup du lendemain, il va être un état plus profond dans un état dépressif. Et du coup, la solution pour pas... parce qu'à cet âge-là, on se dit pas « mais je suis dépressif, il faut que j'aille voir quelqu'un », la solution, ça va être « ok, je vais pas bien, donc je refume un pétard. » Et puis, on recommence. Et puis, c'est vrai aussi que quand on fume au même titre que la boisson, quand on boit... moi, aujourd'hui, si je bois un quart de verre de vin, je commence à avoir la tête qui tourne. Je suppose, j'ai pas essayé, j'ai même plus envie, que si je tire une taffe sur un pétard, je vais avoir la tête complètement explosée. Alors que, effectivement, des pétards, plus on en fume un peu au début, puis on en fume de plus en plus.
On a aussi besoin de respiration, d'espoir quand elles sont sincères. Vous vous sentez, on vous sent épanoui, mais est-ce que aujourd'hui, vous avez une souffrance par rapport à ça, vous avez des envies, l'envie de fumer revient, ou c'est quelque chose qui est de vous shooter éventuellement, ou c'est vraiment quelque chose qui est derrière vous.
Moi, on peut me donner autant, je dirais, pour moi, c'était vraiment précieux comme un diamant,
c'est ce que vous déclinez.
C'était vraiment, il pouvait se passer quoi que ce soit autour, rien ne m'atteignait. J'étais focalisée sur le produit et c'était vraiment pour moi la substance vitale plus que tout. Autant on peut me déposer 10 grammes de poudre sous le nez, je vais souffler dessus ou le mettre aux toilettes. Au début, j'arrivais même pas à envisager quand j'ai décroché que je pouvais le jeter. À la limite, je me disais, je vais le donner à quelqu'un. Je vais en faire cadeau, parce que je me suis tellement battue et j'en ai tellement souffert que je vais pas au moins le gaspiller. Il y a bien quelqu'un à qui ça va servir. Aujourd'hui, je le vois en... Ah zut, hop, je pousse. Et le pétard, pareil.
Il faut dire quand même, malgré tout, il faut être précis. Si la France détient le record pour la consommation des jeunes, il faut voir que la consommation, quand même, elle chute après 25-30 ans jusqu'à présent. Donc ça peut changer dans les années qui viennent, puisque justement, le pneumologue Bertrand Dotzenberg disait qu'il rencontrait de plus en plus dans ses consultations d'adultes qui fument régulièrement du cannabis.
Ce que vous nous annoncez là, on n'a pas...
Malgré tout, les chiffres, malgré tout, le disent. La consommation, elle chute.
C'est vrai. Cela dit, il y a des consommations de cannabis qui perdurent assez longtemps et qui, là aussi, sont sous-estimées parce que c'est pas beaucoup, parce que c'est juste le joint du soir et un peu plus le week-end. Et moi, j'ai une patiente comme ça qui a fonctionné en disant « c'est pas beaucoup, c'est pas embêtant », juste pendant 20 ans. Et qui, quand elle est sortie de sa consommation de 20 ans, a eu l'impression de sortir de 20 ans d'anesthésie. Donc le petit peu sur la substance, le petit peu, il est beaucoup sur un cerveau.
Et puis on croit que ça intensifie les émotions, qu'on perçoit des sensations exceptionnelles, etc. C'est l'effet inverse qui se produit, c'est qu'en fait on se recroqueville, on est fermé à toute effectivement sensation, émotion. C'est le contraire qui se passe. Avec le temps, on s'éteint.
On va maintenant passer aux questions SMS et Internet. Quelles sont les législations des différents pays européens relatives au cannabis ? Alors, ça n'a pas arrêté de bouger. C'est une complication pour vous, ça, ou pas ?
Parce que... Oui, parce qu'on essaie de raisonner déjà au niveau national. Mais c'est vrai qu'au niveau européen, cela dit, il n'y a pas beaucoup de pays qui est autorisé. Il n'y en a pas. On donne toujours l'exemple des Pays-Bas. Ça reste interdit. Simplement, il y a une tolérance. Donc, je pense que l'harmonisation européenne se fera Mais à l'heure actuelle, il faut plus un Dalloz du droit de la drogue et des conventions européennes pour y comprendre quelque chose, et il va y avoir du boulot.
À quel âge en moyenne consomme-t-on du cannabis pour la première fois? On le sait, ça, ou pas?
Oui, c'est 15 ans. Ça reste une moyenne de 15 ans, mais ce qu'on voit sont, hélas, des premiers usages de plus en plus précoces. Et rappelons que ces premiers usages de plus en plus précoces le sont d'autant plus que le premier usage de tabac et alcool a été précoce.
Vous étiez précoce dans tous les domaines.
Oui.
Que ressent celui qui, ou celle, pardon, qui... Ah, c'est très important, ça. Que ressent celui ou celle qui fume du cannabis? Juste une chose que je voulais pas qu'on néglige après ce que vous nous avez dit, parce que ce que vous nous dites est vrai dans la continuité. Mais il n'y aurait pas de plaisir, de détente, d'amusement et de convivialité dans un premier temps. Ça, on n'en parlerait même pas ce soir, on est bien d'accord.
Ce sont les fonctions positives initiales,
Non, mais je sais que malheureusement, le problème, c'est que c'est désinhibateur. C'est-à-dire que c'est un produit qu'on va consommer pour aller danser, pour aller au concert, pour écouter de la musique. On va avoir effectivement une amplification des émotions parce que malheureusement, on est élevé dans un carcan qui fait que on se sent un petit peu en prison, en état normal. Qu'on s'exprime avec moins de spontanéité parce que la vérité n'est pas bonne à dire, comme on dit. Donc,
Pour rebondir là-dessus, on a une petite grille de lecture un peu systématique. Quand on demande aux gens qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vous fait, c'est de demander ce que ça fait sur l'humeur, qu'est-ce que ça fait sur la relation aux autres, qu'est-ce que ça fait sur l'idéal, vos rêves. Qu'est-ce que ça fait sur le sommeil aussi, parce que ça c'est très important et les troubles du sommeil à l'adolescence sont une réalité. Et qu'est-ce que ça fait sur les pensées, c'est-à-dire est-ce que ça les accélère, est-ce que ça les ralentit, est-ce que là ça les ordonne ou au contraire est-ce que ça les désorganise? Et tous qui posent cette question, ils peuvent faire cette petite grille de la pensée, de l'humeur, de l'altérité, c'est-à-dire de la relation aux autres, de l'idéal et du sommeil. Puis noter enfin ce que font les drogues et pas simplement qu'on en parle sous forme de plaisir, d'interdit, mais que ça soit bien compris que c'est une substance psychoactive qui modifie notre monde intime et notre comportement avec les autres. Et que ça soit noté, et comment en effet vous étiez, ou comment ils sont, le lendemain. Quelle gueule de bois, quelle tristesse, quel changement d'humeur, quelle irritabilité quand il n'y a pas de consommation, etc.
C'est-à-dire qu'on est à vif, le lendemain on est à vif, on est énervé, donc effectivement la solution, malheureusement, c'est ça, c'est là où on se fait piéger, c'est de reconsommer. Exactement. Parce que le lendemain on n'arrive pas à dormir, en général.
Et c'est ça qui est plus important, comment on est quand on se retrouve dans une situation,
oui, c'est pas une drogue dure au sens, il n'y a pas de manque physique, il n'y a pas des douleurs, comme moi j'ai pu en connaître avec l'héroïne, mais on est le lendemain déstabilisé, de mauvaise humeur, agressif, on a du mal à dormir, on est dans une espèce de d'étau dans la tête qui fait qu'on n'arrive pas à exprimer quelque chose, alors que c'est justement l'inverse qu'on vient de vivre. Alors, cette espèce de... C'est la comparaison entre le « avec », je m'exprime, j'ai plein d'idées et je dors comme un bébé et tout est beau. Et puis, juste après, c'est la réalité de la vie, c'est l'enfer, etc. Non, c'est pas la réalité de la vie qui est l'enfer, c'est le produit qu'on a consommé qui nous met dans un état désagréable.
Je souffre d'atroces migraines, le cannabis pourrait-il m'aider à lutter contre la douleur ?
Alors,
faut dire la vérité.
On est
adulte. Maintenant.
On est dans un tout autre domaine, c'est-à-dire les possibilités thérapeutiques du cannabis.
Dont on dit de plus en plus qu'elles sont importantes, etc. Alors, c'est de la propagande, ça, ou c'est vrai, il faut le dire.
Elles doivent être extrêmement ciblées, c'est-à-dire là où, en effet, l'emploi du cannabis est susceptible, comme tout nouveau médicament, d'apporter un plus et non pas simplement des risques ou des désagréments. C'est vrai que dans les histoires de dégénérescence neurologique comme la sclérose en plaques ou d'autres maladies de ce style, il y a un confort notamment sur les problèmes neuromusculaires.
C'est vrai.
C'est plutôt une relaxation, ça a été authentifié. Sur les problèmes d'appétit, vous le savez, le cannabis est une des rares substances hors exigène, c'est-à-dire qui ouvre l'appétit, et bien lors de traitements, que ce soit de l'hépatite C ou du sida, il a été démontré que ça ouvre l'appétit, mais on vient de découvrir aussi que le cannabis, pour la fibrose du foie des gens qui ont une hépatite C, c'est pas bon. Vraisemblablement, ça favorise la fibrose. Donc là, il y a un effet, mais il y a tout de suite un effet secondaire qui dit pas là. Dans le glaucome, c'est-à-dire glaucome chronique, si on avait une forme collyre, c'est-à-dire qui ne soit pas fumée, vraisemblablement, ça serait intéressant. Puis il y a quelques recherches aussi qui disent dans certaines douleurs, ça ne doit pas être laissé tomber. Mais là, ce sont des travaux scientifiques sérieux qu'il ne faut pas barrer et qu'il faut évaluer très correctement.
La consommation de cannabis n'est-elle pas un passage quasi obligé dans certains milieux ? Je ne sais pas ce que ça vous inspire.
Et en Nouvelle-Zélande, c'est 75% maintenant des adolescents qui fument.
Ouais. Mais parce que on est obligé de rien. Mais faut voir, et il y a un point qu'on n'a pas dit, mais c'est aussi, pourquoi il y a aussi tant de jeunes qui fument, c'est que c'est aussi le produit illicite le plus accessible. C'est pas très difficile de se procurer du cannabis.
Non.
C'est là où je voulais dire à Hélène, quelle que soit la loi, en fait, qu'il y ait permission, qu'il y ait tolérance, on voit que ça change pas énormément les choses. Faut avoir un peu d'humilité politique dans l'histoire. Ce qui, hélas, fait attractivité et consommation du cannabis sont d'autres facteurs. Pour les premiers usages, c'est-à-dire des facteurs culturels, des facteurs sociaux, et là, c'est encore trop bonne image du cannabis, cette fausse pub dont vous avez parlé.
Il y a un marché, c'est devenu un produit de grande consommation.
Et puis tout à l'heure, on disait, c'est à traiter, à prendre au sérieux au même titre qu'une maladie, mais en même temps, c'est pas une maladie contagieuse, c'est-à-dire que c'est pas non plus la fréquentation seul qui va générer la consommation
de l'initiation par les pères. Une maladie et le cancer n'est pas contagieux et c'est grave.
Le tabac est fermé, on ne veut pas acheter de cigarettes. Effectivement, c'est en connaissant les gens qui consomment qu'on peut en acheter. Maintenant, le jeune qui ne connaît personne qui fume et qui se dit tiens, j'aimerais bien fumer, et il en parle autour de lui, en moins d'une demi-heure, il a trouvé à fumer.
Le système immunitaire est-il mis en danger lors de consommations fréquentes de cannabis ? Bizarre cette question.
Alors là, il y a pratiquement tout et son contraire.
Il y a eu des bruits parce que voilà.
Il y a deux marronniers classiques. Il y a le système immunitaire avec le cannabis et puis la fertilité. On a eu un de nos collègues, maintenant un peu âgé, qui affirmait que non seulement ça rendait sourd, débile, mais ça rendait stérile aussi. Et on avait beau lui dire qu'on ne voyait pas la crise néonatale en Jamaïque, il n'en démordait pas parce que ces rats étaient stériles avec quatre fois leur poids injecté de cannabis. Donc c'est vrai sur le système immunitaire qui est compliqué à évaluer. Il y a des études un peu surprenantes où quand vous donnez à quelqu'un l'équivalent de 20 kilos de cannabis, il n'a pas à peu près la même réactivité, ça c'est sûr. Il y a des récepteurs au cannabis sur des cellules particulières du système immunitaire. Donc là, je redeviens plus sérieux. Il me semble que ça doit continuer d'être travaillé pour que l'on puisse vous répondre avec vraiment sérieux.
Fumer du cannabis quand on est enceinte peut-il poser des problèmes au fœtus ?
Là, il y a quand même assez peu d'études. Il y a quelques études canadiennes et américaines. Oui. Bon, déjà, fumer du tabac, c'est dangereux pour le fœtus. Donc, vous avez déjà les mêmes dangers, puisqu'on vient de voir, même encore plus, des goudrons, des monoxydes de carbone avec le joint de cannabis. Il y a quelques études, mais qui devraient être confirmées, qui demandent encore à être confirmées, qui montreraient qu'il y a des effets retard, c'est-à-dire sur les enfants en âge, en état scolaire, enfin dès qu'ils commencent à aller à l'école, où il y a une hyperactivité, il y aurait des difficultés d'apprentissage, mais tout ça, il y a extrêmement peu d'études encore, et en fait, il y a assez peu de travaux sur les effets du cannabis sur les femmes enceintes. Mais il y a un vrai risque, parce que comme il y a de plus en plus de jeunes filles qui fument du cannabis, bien le risque, c'est qu'il y ait effectivement de plus en plus de femmes enceintes qui en fument.
Il vient juste une chose, la question suivante, c'est: je suis un gros fumeur de cannabis, je voudrais arrêter, ou puis-je trouver de l'aide? Mais juste une chose, dans la postface du livre d'Hélène, vous dites que nous sommes là aussi, en quelque sorte, inégaux devant les drogues.
Oui, absolument.
Tout le monde ne réagit pas de la même façon, tout le monde n'a pas les mêmes souffrances, les mêmes plaisirs, et la même dépendance. C'est important de le savoir.
Pour moi, c'est extrêmement important parce qu'on voit encore aujourd'hui des jeunes qui, avec la consommation, je dirais, de très très peu de cannabis, même un pétard ou deux, je dirais, vont arriver en urgence à l'hôpital psychiatrique parce qu'ils vont tout d'un coup voir des choses extrêmement compliquées et être extrêmement mal ou avoir des crises d'angoisse vraiment terrifiantes. Alors, c'est quelque chose qui peut, je dirais, précipiter dans des difficultés qui sont préexistantes. Hein. Il y a pas, donc, il faut savoir qu'on est donc inégaux, comme on est inégaux aussi devant l'alcool, on l'a dit. On sait très bien que les femmes supportent moins bien l'alcool que les hommes, etc. Et là, je dirais, le psychisme des jeunes, puisque là, on parle surtout du cannabis pour les jeunes, est évidemment tout à fait différent selon les difficultés. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui ont des difficultés graves aussi, psychiatrique, on va dire, et qui s'automédique entre guillemets avec du cannabis et qui renforce, je dirais, leurs difficultés en disant mais non, mais je suis beaucoup mieux. Et donc là, on est dans des situations extrêmement embêtantes parce que, je dirais, les traitements qu'on leur propose sont, je dirais, annulés par aussi l'effet du cannabis.
Bon, quand même, pour répondre à nos téléspectateurs, je suis un gros fumeur, je voudrais arrêter ou puis-je trouver de l'aide. Où est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Dans un premier temps, j'ai
dit. Là, il y a tout un... depuis, cannabis, on a vu Didier Gelle.
On en parle à son généraliste.
Alors, on peut en parler à son généraliste, bien évidemment. C'est le réflexe.
Maintenant, ça... Si, si, ça commence.
Il va vous envoyer au généraliste.
Non, généraliste, il va dire je connais ou je connais pas. Et éventuellement, il va prendre le réflexe qu'on essaye de développer de plus en plus, c'est d'adresser à soit des endroits spécialisés, soit des médecins spécialisés, soit des points d'écoute spécialisés sur le cannabis. Il y en a un par région maintenant. Il suffit d'aller sur Internet et si on met écoute cannabis et on voit qu'on a un centre à 50 km près de chez soi ou plus loin.
Et des centres gratuits.
Et les médecins doivent se former à ça. C'est ça le plan global contre les addictions. Voilà. Les médecins, ils peuvent plus dire moi, je connais rien au cannabis ou aux addictions.
Une phrase.
Des centres gratuits et anonymes.
Merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end sur France 5. Nous vous retrouvons avec plaisir lundi soir à 17h50. À lundi.